Question d'islam par Ali Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'un génie. Le mot est peut-être exagéré ou pas. Nous le verrons avec le professeur Gabriel Martinez Gros. Il s'agit d'Ibn Khaldoun, Abdelrahman Ibn Khaldoun. Et ce qui est curieux, c'est que nous ne lui avons jamais consacré une émission ad hoc. Et voilà un manquement pallié aujourd'hui. Et grâce à vous, Gabriel Martinez Gros, merci.
Merci Raleb.
De nous faire l'amitié de venir pour parler d'Ibn Khaldoun.
Merci à vous.
Je vous présente pour nos amis auditeurs qui vous connaissent. Et vous êtes professeur émérite, professeur d'histoire médiévale du monde musulman à l'université Paris-Ouest Nanterre. Et vous êtes assurément l'un des spécialistes de l'islam classique et surtout un des biographes, si ce n'est le biographe d'Ibn Khaldoun. Comment se fait-il qu'il reste encore très peu connu ou peu connu du grand public?
Il l'a été davantage qu'il ne l'est. Arnold Toynbee, je prends volontairement une voix britannique pour éviter ce presque face-à-face que Ibn Khaldoun a connu avec la science française. Car Ibn Khaldoun a été une passion française et peut-être le reste-t-il en particulier. Mais Arnold Toynbee avait l'habitude de dire qu'il n'y avait pas de construction historique comparable à la théorie d'Ibn Khaldoun avant le 19e siècle. C'est-à-dire qu'il plaçait Ibn Khaldoun au-dessus des Grecs, au-dessus d'Hérodote, de Thucydide ou de Polybe. Il le plaçait au-dessus de Machiavel et probablement même au-dessus de Hobbes, le grand philosophe politique anglais du XVIIe siècle, d'où en général on fait sortir la modernité. C'est un homme qui a été... Toynbee est mort en 1975, je crois, ou 1976. C'est un homme qui a été, à l'époque coloniale en particulier, très connu, très apprécié, très approfondi, même s'il n'a pas été, à mon avis, aussi approfondi que j'ai essayé de le faire. Et il a subi une éclipse après la colonisation, après les années 60, tout simplement parce qu'il avait été trop admiré par les colonisateurs, probablement. Et c'est une chose assez étrange que les sentiments aussi que provoque Ibn Khaldoun, que soulève Ibn Khaldoun dans le monde arabe, qui a été son monde, soient aussi contrastés. Il y a un nombre infini, comme vous le savez, Raleb, d'instituts Ibn Khaldoun. Et en même temps, il y a une réticence à son égard qui tient à certains textes sur les Arabes qui sont en général mal compris, et aussi à cette exaltation dont malheureusement il a été la victime auprès des penseurs français ou britanniques de l'époque coloniale.
Alors pour rester dans cette présentation encore en guise de préambule, l'appellation génie s'y est appliquée, notamment de la part de Franz Rosenthal.
Absolument.
Orientaliste ou historien.
Absolument. Rosenthal, mais aussi du côté français, grand orientaliste d'origine allemande, mais réfugié aux États-Unis pendant la période du nazisme, et qui a vécu et qui est mort, qui a traduit Ibn Khaldoun, mais aussi du côté français, des hommes comme les Marsay, les frères Marsay, comme Blacher. Quatre mères avant lui, le baron de Slane, bien entendu, qui l'a traduit au XIXe siècle, et bien d'autres. On peut dire que...
Et Vincent Monteil aussi le considère comme un génie.
Gaston Boutoul, aujourd'hui un peu oublié, qui a tenté de fonder une science de la guerre, ce qu'on a appelé la polémologie, et qui était un grand admirateur d'Ibn Khaldoun. Ernest Gellner en Angleterre, d'origine tchèque, mais lui aussi réfugié en Angleterre pendant la guerre, qui était lui aussi un admirateur passionné d'Ibn Khaldoun. Ils sont nombreux, ils ont été très nombreux jusque dans les années 70, après quoi il y a eu un creux, on va dire. Mais en effet, dès lors qu'on le connaît, c'est un génie. Il y a pas de doute, l'appréciation est quasiment unanime.
Hein. On peut sans courir un grand risque dire, en ce qui concerne le monde de l'islam et les musulmans, assurément c'est le plus grand historien.
Voilà.
Et pour ce qui concerne le reste de l'humanité, c'est l'un des plus grands historiens que l'humanité ait connu.
Alors peut-être qu'on peut très rapidement dire pourquoi c'est un génie, hein, et pourquoi Toynbee, par exemple, a pu penser que jusqu'au XIXe siècle, il n'y en avait pas l'équivalent. C'est tout simplement que Ibn Khaldoun lit l'histoire et la pensée politique, qui n'est pas le premier à inventer, bien sûr, à la société. C'est ça qui est extrêmement nouveau, c'est-à-dire que pour lui, l'État et la politique dépendent de la situation de la société. C'est l'état de la société, ce qu'il appelle la omran, c'est-à-dire en particulier la démographie, l'économie, qui détermine le politique.
Alors, omran, vous traduisez démographie, économie, où certains ajoutent urbanisme et civilisation.
Oui, et civilisation.
Enfin, les quatre réunis.
Voilà, c'est difficile à traduire. Et d'une manière générale, évidemment, comme à l'époque d'Ibn Khaldoun, les sciences humaines que nous connaissions, ou les sciences sociales que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas distinguées. Il a lui-même élaboré ce terme, hein, qui existe en arabe bien sûr, mais qu'il a choisi pour désigner ce qu'il pense avoir apporté à la science de nouveau. Alors il est très rare en plus, hein, qu'un homme du Moyen-Âge se flatte de dire qu'il apporte du nouveau. En général, c'est assez mal perçu. La bid'a, comme vous le savez, c'est-à-dire la nouveauté, l'innovation est très mal perçu.
L'innovation blâmable.
L'innovation blâmable, bien sûr, est mal perçue. Et eh bien, il a osé une innovation que certains ont jugé blâmable, d'ailleurs, mais que la plupart ont jugé très intéressante, puisque même dans le monde musulman, il faut le dire, hein, jusqu'au XVIIe siècle, Ibn Khaldoun est considéré, ses ouvrages sont lus, et il en existe un nombre assez considérable de manuscrits,
oui.
Ce qui est assez significatif.
Je ne veux pas être moi-même un peu parmi les thuréféraires ou parmi les laudateurs, mais j'ai noté qu'un certain Ludwig Gomplowicz, oui, disait de lui qu'il est le fondateur de la sociologie, sinon moderne, au moins la sociologie européenne.
Voilà, c'est-à-dire que on retrouve en tout cas chez lui des choses qu'on ne retrouvera que chez les philosophes du XVIIIe siècle peut-être, et chez Durkheim par exemple, à propos par exemple de la manière dont se forment des solidarités sociales. Le lien social, comme nous disons aujourd'hui. Comment se forme le lien social ? Ce sont des problèmes que pratiquement personne n'a abordé avant lui. Hein, c'est sa fameuse asabi, hein, c'est-à-dire
comment sur la notion, sur le mot.
Voilà, voilà.
Alors, c'est un classique quand il s'agit d'un homme et de sa trempe et de son génie. Alors, il est né en 1332,
voilà,
à Tunis,
d'une famille, d'une très vieille famille arabe, originaire du Yémen, du Hadramaut plus exactement, hein, de l'est du Yémen d'aujourd'hui, mais qui s'était établi en Al-Andalus. Un de ses ancêtres avait été compagnon du prophète, et la famille, une famille aristocratique d'ores et déjà, hein, s'était établie en Al-Andalus au moment de la conquête de l'Espagne par les Arabes, plus exactement à Séville, où la famille a vécu pendant 5 siècles, et où d'ailleurs ses ancêtres ont parfois joué un rôle politique particulièrement important. C'est très rare, hein. Oui. Et donc, la famille est domestiquée selon une courbe qu'on retrouvera dans la théorie d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire qu'après le rôle militaire et conquérant des premiers, y compris de Khaldoun, celui qui a donné son nom à la famille et qui est l'homme qui s'est établi en Al-Andalus, hein, viendra le temps des intellectuels, en fait, hein, des hommes de religion et des intellectuels. Son grand-père il quitte Séville au moment de la reconquête de Séville par les chrétiens en 1248, quelques années auparavant, hein, ses ancêtres quittent Séville en 1246 et se réfugient à Tunis, tout simplement parce qu'ils y suivent la dynastie des Almohades, qui jusque-là avait dominé l'Afrique du Nord et l'Espagne, au service de laquelle les Banu Khaldoun étaient entrés. Les Almohades sont en train de perdre le Maroc et l'ouest de l'Algérie, mais en revanche, ils conservent l'est du Maghreb, et en particulier Tunis. Et les Banu Khaldoun s'installent donc à Tunis, sous la protection de la dynastie qu'ils avaient l'habitude de servir. Et le grand-père d'Ibn Khaldoun sera ministre des Finances. C'est un homme qui est né
dans
l'aristocratie, on peut dire. Et son père est un savant reconnu, un alim reconnu dans le milieu des oulémas de Tunis.
Il aura une éducation là aussi classique, puisqu'il apprendra les sciences religieuses, puisque lui, dit-on, fait partie de ceux, si ce n'est le premier à faire la distinction entre les sciences rationnelles et les sciences rapportées, religieuses en gros.
Oui.
Mais il commencera par ça lui-même déjà.
Mais bien sûr. Et puis il est jusqu'à la fin de sa vie, il sera juge en Égypte. C'est-à-dire que l'essentiel de son activité est une activité judiciaire, une activité juridique aussi.
C'était une autorité qui disait le droit.
C'est une autorité qui dit le droit, absolument. Et alors en particulier en Égypte, bien sûr, le droit maliki. C'est-à-dire le droit du Maghreb, puisque en Égypte, mais on avance un peu dans sa vie, peut-être un peu trop vite.
Ou du moins, on fait des va-et-vient.
En Égypte, il y a 4 cadis, 4 juges pour que qui correspondent aux 4 écoles sunnites, de telle sorte que tous les croyants puissent être jugés selon la tradition qui est la leur, et donc qui d'abord parlait leur dialecte, et ensuite qui était capable de manier les particularités de l'école malikite, l'école dominante au Maghreb.
Alors, son enfance et son adolescence sont plutôt éprouvées.
Voilà.
Parce qu'il y a la peste,
voilà.
La peste noire,
voilà.
Et sa mère déjà mourra, et
oui.
Puis son père
et
suivra
son père,
plus tard.
Absolument. Alors, c'est peut-être le plus grand événement de sa vie, finalement. C'est la peste qui touche Tunis quand il a 16 ans. Et qui interrompt d'ailleurs en partie son éducation. Il aura une éducation interrompue qu'il rattrapera grâce à son immense envergure intellectuelle et aussi au fait que on lui prête beaucoup. C'est-à-dire que il est fils, petit-fils, arrière-petit-fils de Ali. Mais donc, bien sûr, on ne va pas demander à Ibn Khaldoun autant de preuves qu'on demandera à quelqu'un qui sort d'un milieu plus modeste, indiscutablement. Cette peste, elle décime littéralement le milieu professionnel oral de Tunis. J'avais compté que 10 des 16 maîtres qu'il mentionne dans sa biographie meurent de la peste tunisoise de 1348-1349.
À ce sujet, d'aucuns disent que ça fait partie des facteurs, parce qu'en réalité il y a une condensation multidimensionnelle et plusieurs facteurs qui expliquent la stagnation et puis le déclin de la civilisation islamique. On n'est plus là avec Ibn Khaldoun, c'est aussi la peste.
Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Et une peste dont le monde islamique ne se relèvera pas complètement, à la différence de l'Occident, tout simplement parce que, mais là nous quittons les rivages d'Ibn Khaldoun, il n'adoptera pas le confinement. La seule méthode qu'on ait malheureusement contre la peste à cette époque.
Ibn Khaldoun, là finalement, très jeune, va être remarqué ou sollicité par le sultan Hafsid.
Par le sultan Hafsid et par le sultan Mérini du Maroc. Les deux.
Un peu plus tard.
Et il suit le sultan Mérini qui occupe Tunis en 1348, mais qui est vaincu assez rapidement par les tribus arabes de l'intérieur de la Tunisie actuelle. Et il repart avec lui vers Fès. Il va se mettre au service des rois du Maroc dans un premier temps. Et c'est le premier de ces va-et-vient presque incessants qu'il va faire à travers le Maghreb pendant presque 25 ans, au service de pratiquement tous les pouvoirs, et dans des fonctions de plus en plus spécialisées, cela dit, dans le rapport avec les tribus arabes de l'intérieur du Maghreb, parce que la plupart de ces pouvoirs berbères, les Hafsides sont des berbères, les Mérinides sont des berbères, ces pouvoirs berbères un peu déclinants, ont besoin de forces neuves et ils trouvent en général leurs forces militaires dans les tribus arabes de l'intérieur du Maghreb, du Maghreb intérieur, comme disait Jacques Berck. Hein.
Avant d'être un peu le condottieri, que parfois il allait chercher des mercenaires, il ne se contentait pas, il trouvait que c'était pas à sa mesure d'être simplement le secrétaire du roi à écrire d'être garde des sceaux.
D'être garde des sceaux et
en écrivant sur du vélin.
Voilà, et d'écrire dans un bon arabe, parce que c'est l'essentiel, hein, je veux dire. Il faut que les chancelleries de ces cours berbères écrivent dans un arabe qui soit digne d'un pouvoir sultanien. Et donc, les Andalous en général, et Ibn Khaldoun ici en particulier, sont là pour ça. Hein. Mais vous avez raison, il est probablement déjà trop orgueilleux, surtout trop intéressé au fonctionnement réel du pouvoir pour se contenter de ça. Et donc, à un certain moment, en tout cas, au début des années 1360, il a déjà 28-29 ans, il va se retrouver, après une rupture ou un contretemps au Maroc, à Fès, il va se retrouver à la tête du petit royaume de Béjaïa, de Bougie, dans l'est de l'Algérie. Il revient dans son domaine, c'est-à-dire celui des Hafsides, de Tunis, Bougie, Constantine, et il est vizir, il est grand vizir réellement. Il gère l'État et il voit ce que c'est que la gestion d'État, y compris la difficile gestion financière d'un État qui n'a pas d'arrière-pays pratiquement, hein, qui vit d'autres le feront plus tard, mais des siècles plus tard et avec plus de prospérité, qui vit essentiellement de la mer. Hein. Mais il lève, ou il s'efforce de lever l'impôt, il le raconte dans sa biographie, il s'efforce de lever l'impôt sur les tribus kabyles de l'intérieur, ce qui n'est pas facile.
De nos jours, on dirait qu'il gère l'exécutif.
Voilà, tout à fait.
Et puis, il va acquérir aussi une grande expérience de diplomate rompu aux négociations.
Voilà.
Quand le roi de Grenade le dépêche auprès du roi de Castille.
Absolument, absolument. Il n'oublie. Alors, il revient dans sa ville, hein, Séville, enfin, la ville de ses ancêtres. Il était né lui-même à Tunis et ça faisait plus d'un siècle, hein, bien sûr, que ses ancêtres avaient quitté Séville. Mais par l'intermédiaire du médecin juif Ibn Zalzal, qui fait l'interprète, hein, entre le roi de Castille, Pierre le Cruel, et Ibn Khaldoun, le roi apprend que Ibn Khaldoun est d'une famille originaire de Séville. Et lui offre, dit Ibn Khaldoun, hein, c'est lui qui nous en informe dans sa biographie, il lui offre la maison de sa famille. Il lui offre de lui restituer la maison de sa famille, ce à quoi Ibn Khaldoun ne répond pas. Enfin, il décline gentiment et poliment, bien sûr, l'invitation. Mais il n'est pas question pour lui de vivre en exilé dans un monde chrétien dont il ne connaît pas la langue et dont il ne connaît pas les usages et pour lequel il garde tout de même une forme de, on va dire, de distance, pour ne pas dire de léger mépris. L'islam de ce temps est encore très conscient d'être le centre du monde. Hein. Vous êtes dans un empire. Hein. Vous êtes encore dans une pensée impériale. و از ابرم آتش می جهد باران اشک می رود و از ابرم آتش می جهد با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام را آخ یار اینه همان همان
France Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
Aujourd'hui, avec le professeur Gabriel Martinez-Gros, nous passons en revue la vie et l'œuvre d'Ibn Khaldoun, Abdelrahman Ibn Khaldoun, qualifié de génie, grand historien, fondateur ou en tout cas précurseur de la sociologie ou des SHS,
voilà.
De l'homme et de la société. Et ce n'est qu'un manquement que nous pallions aujourd'hui. Merci à vous, Gabriel Martinez-Gros. Vous êtes professeur émérite, professeur d'histoire médiévale du monde musulman à l'université Paris-Ouest Nanterre. Et vous êtes le spécialiste d'Ibn Khaldoun en France. En tout cas, moi, je le dis et je le pense. Nous continuons cette présentation avec vous. D'aucuns disent qu'Ibn Khaldoun, et c'est là ma question, il a un peu touché et changé Kazakh,
oui.
Si je puis dire.
Oui.
Alors, oui. Lui, il se défend en disant, je le dis sous votre contrôle, que je cherchais l'unité d'un monde encore en trouble, même s'il est dans une pensée impériale, mais d'autres ne comprenaient pas ces alliances un peu différentes.
Oui, c'est vrai, on le lui a reproché, mais il faut bien voir que Ibn Khaldoun flotte en quelque sorte sur la surface d'un monde dont il comprend assez vite qu'il n'y pénétrera jamais, c'est-à-dire le monde des dynasties, et des, alors comment le dire autrement qu'Ibn Khaldoun, comment le dire autrement que Asabi, a des solidarités berbères, qu'il ne peut pas pénétrer parce qu'il est andalou. Il a une niche d'activité, il a une niche de pouvoir, qui est effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'essentiel auprès des grandes dynasties, la niche de la chancellerie, de l'écriture de l'arabe en particulier, le cas échéant de la diplomatie, parce qu'il présente bien, si j'ose dire, mais en aucun cas, les décisions suprêmes ne lui sont ouvertes. Il ne fait pas partie de ces conseils très restreints, et où probablement encore au XIVe siècle, on ne parle pas l'arabe, on parle encore le berbère, hein, ces conseils où se prennent les décisions les décisions centrales et cruciales, hein, pour les dynasties. Et donc il ne se sent pas engagé par la fidélité à telle ou telle dynastie, d'autant que, sauf peut-être la dynastie des Hafsides, qui était celle que ses ancêtres avaient servi, mais les autres, en particulier la dynastie des Mérinides du Maroc et la dynastie des Abdelouad de Tlemcen, qui sont les deux principales, hein, probablement dans le Maghreb où il a vécu sa vie, celles-là lui sont à peu près indifférente. Pourquoi l'une plutôt que l'autre? Pourquoi l'autre plutôt que l'une? À vrai dire, c'est un peu non pas au plus offrant, parce que je ne crois pas que ce soit l'argent qui le fasse marcher, hein, mais plutôt les honneurs, mais plutôt le prestige.
La gloire.
La gloire, absolument. Hein.
Voilà. À ce sujet, il connaîtra deux fois le vizirat, mais deux fois aussi les
la
jours.
Prison. La absolument. Prison. Absolument. Absolument, oui, oui.
Une fois fatigué, il va dans une forteresse, une citadelle, la citadelle ou la forteresse des Bani Salama,
voilà.
Et là, il commencera à écrire.
Voilà. Alors, il décrit ça dans son autobiographie, et il décrit ça comme une illumination religieuse. D'un seul coup, il quitte, il a 43 ans maintenant, voilà, 25 ans qu'il vadrouille d'une cour à l'autre du Maghreb pour servir, et d'un seul coup, il dit qu'il est saisi par l'explication, en quelque sorte. Il est saisi par l'illumination. Il comprend comment tout le système marche. Tout le système marche. Et c'est là que va commencer le grand Ibn Khaldoun, c'est-à-dire celui de l'explication d'un monde qu'il quitte, étrangement. Car ce monde qu'il va expliquer, c'est-à-dire le monde politique et social, et en particulier le monde politique, il va le quitter aussitôt. Et en effet, pour le quitter, parce qu'il faut des protections, il risque d'être poursuivi par la colère des souverains qu'il quitte sans crier gare et sans avoir donné son préavis, il se réfugie auprès d'une tribu arabe. Là, il n'a rien à craindre parce que les tribus arabes sont celles qui précisément détiennent le pouvoir. Il va donc en 5 mois écrire la fameuse Muqaddima, c'est-à-dire l'introduction, hein, qui est la partie théorique de sa chronique universelle, de son histoire universelle, le premier tome de son histoire universelle.
Que d'aucuns présentent comme étant les prolégomènes.
Les prolégomènes, voilà, introduction, prolégomènes, et qui est la partie géniale. Hein, je veux dire, c'est évidemment... Et puis ensuite, il met 3 ans pour écrire son histoire universelle. Vous savez que quand on a découvert pour la première première fois des extraits de la Mukaddima. C'est un savant autrichien, Hammerpochtal, qui les a découverts au tout début du 19e siècle. On a cru qu'il s'agissait d'un faux. On s'est dit, quelqu'un qu'on prétend traduire en allemand et qui a des pensées aussi proches de celles des philosophes du XVIIIe siècle européen, ça ne peut être qu'un faux. Et on en faisait beaucoup à l'époque, hein, il faut le dire. Eh ben non, c'était un vrai. C'était un homme qui, 4 siècles avant les philosophes européens, avait pensé des problèmes tels que l'Europe ne les pensera que au XVIIIe ou au XIXe siècle.
Alors, il y a 2 temps dans sa vie, là, le temps maghrébin, voilà, ou andalou maghrébin, et voilà, puis le temps égyptien ou plutôt oriental.
Voilà, et on y arrive.
On y arrive. Et là, c'est parce qu'il était aussi lassé des jalousies, des, voilà, de l'acrimonie, parce qu'il suscitait aussi la jalousie de certains de ses condisciples ou d'autres.
Exactement, il retourne à Tunis dans un premier temps, c'est sa ville où il commence à enseigner, et ce qu'il enseigne paraît si bizarre et si inutile aussi. Hein. Les hommes de les en la main, fondamentalement, sont des juristes. Hein. Enseigner une théorie de l'histoire, une théorie de la société, ça n'est pas leur rôle. Et donc, il est écarté du milieu du sultan, lui qui est soucieux de briller, il faut bien le dire. Hein. Et il pense que la ville qui le mérite, et la seule ville qui le mérite, à vrai tout, c'est le Caire. Parce que c'est la plus grande ville du monde islamique. Et donc, il décide, sous prétexte de pèlerinage, il fait son pèlerinage d'ailleurs.
Parce que Bagdad étant dévasté par les Mongols déjà en 1258.
Absolument. Bagdad, si j'ose dire, n'existe plus. Non, la ville existe, mais elle a totalement perdu son éclat. Et en revanche, le Caire est encore, malgré la peste, une ville probablement de l'ordre de 300 000 habitants, qui dépasse Paris. Alors que pourtant, l'Égypte et la Syrie, sur lesquelles elle règne, sont moins peuplées, probablement, mises ensemble, que la France ne l'est à ce moment-là. Mais justement, ce sera l'un des éléments de sa théorie. Hein. Ce sera l'un des éléments de sa théorie. Comment le pouvoir est capable de concentrer la richesse et, par conséquent, d'aider à la manifestation d'une ville aussi tentaculaire que le Caire. Et donc, lorsqu'il arrive au Caire, il y a d'ailleurs un cri d'enthousiasme. Hein. Je veux dire, le Caire, c'est le c'est-à-dire le rassemblement des peuples du monde comme le jour du jugement
de la
dernier,
résurrection, de la résurrection dernier. Et là, le Caire ou l'Égypte et au-delà sont dirigés par Zahir Barkouk,
oui,
le sultan,
absolument,
qui l'a bien accueilli.
Qui l'accueille très bien.
Parce que sa renommée l'avait précédé, bien entendu.
Sa renommée, et puis, voilà quelqu'un qui parle du pouvoir. Hein, je veux dire, les Mamelouks sont au contraire, le sultan, qui est d'ailleurs un des très très grands sultans. Il faut dire, il a eu de la chance, hein, Ibn Khaldoun. Il tombe sur l'un des plus grands sultans Mamelouks, celui qui va pratiquement orienter le régime pendant tout le siècle suivant, le 15e siècle qui va suivre. Et donc, il est particulièrement bien accueilli. Il reçoit effectivement une charge d'enseignement dans ce qu'on appelle une ranka, c'est-à-dire un établissement soufi, en fait. Hein. Il y en avait au Caire, il n'y en avait guère encore, de cette taille en tout cas, et qui accordait une telle importance à l'enseignement à Tunis et au Maghreb. Non seulement il reçoit une charge d'enseignement, mais il reçoit assez vite donc cette charge de juge malikite, puisqu'il y avait 4 juges pour chacune des 4 écoles principales pour l'Empire, hein, pour l'Empire Mamelouk, c'est-à-dire l'Égypte et la Syrie, hein, fondamentalement.
Là aussi, les épreuves de la vie le poursuivent, puisque son épouse, enfin sa famille, devait le rejoindre par bateau et ouais, aura
absolument
un naufrage.
Ouais, c'est terrible, en effet.
Heureusement que ses fils n'y étaient pas, n'ont pas accompagné leur mère.
Voilà. Il lui est resté des fils, on le sait. Mais en revanche, sa femme, on ne sait pas si il s'est remarié ensuite. Il avait une 50aine d'années à ce moment-là. Sa femme et plusieurs de ses enfants, de plus bas âge, périssent au large d'Alexandrie, à peine à quelques centaines de mètres des côtes, semble-t-il. Voilà, toute la famille disparaît. Enfin, une partie de la famille disparaît. Voilà.
Encore peut-être 2 ou 3 choses concernant sa vie. Il va accomplir, bien entendu, le pèlerinage à la Kaaba, à la Mecque.
Bien sûr, bien sûr.
Et surtout, peut-être qu'on nous finira avec cela, c'est sa rencontre avec Tamerlan.
Voilà.
35 alors jours entre décembre 1400 et janvier 1401. peut-être qu'ils ne se voyaient pas tous les jours, mais ça, c'est vous qui nous le diriez. Mais 35 jours auprès de Tamerlan, ça marque.
Ça marque terriblement. Tamerlan est un envahisseur qui vient d'Asie centrale, dont la réputation est terrifiante. Hein. C'est l'homme des tours de tête coupée. On en a compté, si je ne me trompe pas, 38 à Ispahan, d'environ 2000 têtes coupées chacune, hein, c'est la totalité de la population d'Ispahan qui a été exterminée en 1387. Et donc c'est cet homme-là, et bon, malheureusement il avait d'autres exploits du même genre à son actif, c'est cet homme-là que Ibn Khaldoun rencontre, non pas pour le plaisir, mais l'armée égyptienne qui devait repousser Tamerlan, l'armée
qui a déjà pris Alep et qui a déjà pris Alep, à prendre Damas.
Voilà, et qui a soumis Alep à un massacre, sinon général, du moins assez accentué, met le siège devant Damas, et l'armée du sultan d'Égypte, qui aurait dû défendre Damas, se retire précipitamment. Et malheureusement, on oublie là quelques-uns des dignitaires principaux de l'Empire, c'est-à-dire en particulier les cadis, les quatre cadis, qui avaient accompagné l'armée sur ordre. Hein. Ibn Khaldoun dit bien qu'à 70 ans, parce qu'il a désormais presque 70 ans, il n'avait pas trop envie de faire le voyage de Damas, mais il en a reçu l'ordre direct du sultan, donc il a suivi le sultan. Et ces hommes de religion sont abandonnés, mais la population de Damas leur demande de négocier auprès de Tamerlan une capitulation honorable. Et c'est ce qu'il va faire, et réussir soit que ses talents et ceux d'Ibn Moufler, le cadi Anbalit, aient été particulièrement brillants, soit que Tamerlan n'ait pas eu vraiment l'intention d'aller au-delà. Il était très loin de ses bases. Il est attaqué par le petit sultan ottoman. C'est encore un petit sultan à l'époque qu'il va aller écraser à Ankara l'année suivante, en 1402.
C'est Bayezid
premier. Et donc, Tamerlan accepte, c'est-à-dire qu'il accepte que la population de Damas soit préservée et qu'on procède simplement à un pillage.
Une dernière chose avec la rencontre, en ce qui concerne la rencontre avec Tamerlan, ce dernier, en dépit de sa cruauté, serait ou aurait été sensible d'une manière générale à l'art, à la connaissance,
oui.
Mais surtout ce que lui avait dit Ibn Khaldoun à propos du Maghreb et de l'Andalousie.
Voilà. Alors Tamerlan est à la fois un grand massacreur indiscutablement, mais c'est aussi le fondateur d'une des dynasties les plus brillantes dans sa capitale de Samarcande et aussi dans les villes du Khorasan, à Herat en particulier, d'une des dynasties les plus brillantes, ce qu'on appelle les Timourides, hein, de l'histoire de l'islam, qui va donner en particulier ses modèles artistiques, ses canons artistiques à tout le monde islamique à suivre, aussi bien en Inde que dans l'Empire ottoman et en Perse. Et donc il est effectivement très curieux intellectuellement, et lorsqu'il sait qu'il y a là un savant maghrébin qui vient en outre lui demander des conditions de capitulation honorables pour Damas, il lui demande de lui écrire un petit livre sur le Maghreb pour savoir ce que c'est que le Maghreb, parce que le Maghreb c'est infiniment exotique pour Tamerlan. Alors il communique avec Ibn Khaldoun par l'intermédiaire d'un interprète, hein. Tamerlan ne parle pas l'arabe. Et Ibn Khaldoun ne parle pas le persan ou le turc Jagatai de Tamerlan. Hein. Et donc, il communique par l'intermédiaire d'un interprète, mais il semble qu'en effet, Ibn Khaldoun ait écrit dans les 15 jours, pendant une quinzaine de jours, il s'est enfermé auprès près du camp pour écrire ce petit traité sur le Maghreb, sa géographie et son histoire, qu'il a ensuite remis à Tamerlan lors d'entrevues postérieures, après les premières entrevues qu'ils ont eues.
Culture, Question d'islam, Khaled Bencher.
Aujourd'hui, nous parlons d'Ibn Khaldoun, Abdelrahman Ibn Khaldoun, avec son biographe reconnu, Gabriel Martinez Gros. Merci encore une fois, merci Gabriel Martinez Gros, de venir nous présenter Ibn Khaldoun, parce que nous voulons rattraper vraiment cette carence. Vous êtes professeur émérite, mais professeur d'histoire médiévale du monde musulman à l'université Paris-Ouest Nanterre et un spécialiste incontesté de l'islam classique. Pour cette dernière partie, parlons, il mourra en 1406.
Oui, peu de temps après.
Peu de temps après. Il a été cassé, comme on dit, comme juge. C'est-à-dire, démis de ses fonctions quelquefois, et puis il revient.
Ah oui, six fois. À cause de la brutalité de ses, la brutalité. De la rigueur de ses décisions.
De la sévérité.
Sévérité de ses décisions, absolument. Bon. Et comme vous le savez, en droit musulman, on n'a pas le droit de revenir sur la décision d'un qadi, mais en revanche, on peut démettre le qadi. Voilà.
Alors, dans le jargon juridique, on dit on casse le juge.
Absolument.
Comme on casse.
Absolument.
Comme on casse la décision du juge aussi.
Voilà.
Alors, vous avez évoqué à deux reprises la notion arabe de Asabiya qui est quasi intraduisible dans d'autres langues.
Oui.
D'aucuns disent que c'est une sorte de solidarité agnatique au départ.
Oui.
Mais en réalité, c'est plus une sorte de cohésion sociale, clanique. Et puis par-delà, ça devient le liant de la société.
Absolument. Mais peut-être faut-il partir de la fin de la Mukaddima. Là, vous commencez par le début, ce qui est assez logique, vous me direz, vous.
mais c'est vous qui savez comment présenter les choses.
Mais peut-être faut-il partir de la fin. La fin de la Mukaddima, ce sont les métiers.
La Mukaddima étant l'introduction
théorique à son histoire universelle. La fin de la Mukaddima, c'est comment se déploie dans la ville les métiers du textile, de la construction, du champ, les métiers de sage-femme, de médecin et les métiers de professeur. La science fait partie de ces métiers. C'est le but. Le but, c'est la prospérité de la ville. Mais qu'est-ce qui fait la prospérité de la ville? Et même au-delà, qu'est-ce qui fait la ville? Ce qui fait la ville, c'est essentiellement une accumulation de population, une accumulation de compétences et une accumulation de ressources financières, une accumulation de demandes. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des métiers, il faut qu'il y ait une demande pour des métiers. Et que ces métiers répondent à cette demande, à par une offre. Donc plus la ville est grande, plus les métiers sont diversifiés et plus ils sont nombreux, c'est-à-dire que plus la ville offre ce que nous appellerions aujourd'hui des gains de productivité, tout simplement. Hein. Et donc comment fait-on une grande ville? Eh bien pour faire une grande ville, il faut un grand pouvoir. C'est là seulement que la politique apparaît. La politique apparaît pour faire en sorte que la ville fonctionne. Et pour Ibn Khaldoun, il n'y a pas d'autre civilisation qu'une civilisation urbaine, bien entendu. Hein. Et donc, il faut créer une ville pour qu'il y ait civilisation. Et il n'y a qu'un pouvoir, et un pouvoir fort, qui puisse créer la ville par l'intermédiaire de l'impôt. Hein. C'est l'impôt qui mobilise la richesse et qui permet de constituer la ville. Et comment un pouvoir réussit-il à lever l'impôt? Il réussit à lever l'impôt parce qu'il est fort et parce qu'il réussit à désarmer la masse de ses populations. Et comment arrive-t-il à désarmer la masse de ses populations? Eh bien, on arrive à l'Arsabia, hein. C'est que lui dispose d'une force qui est au départ une force naturelle, c'est celle des tribus, hein. C'est la solidarité agnatique en effet, hein, la solidarité entre membres des tribus, mais que l'État mobilise à son service pour imposer son autorité et en particulier désarmer l'immense majorité de la population qui est assignée à des tâches productives et constituer la ville. Et donc, à partir de l'impôt qu'il concentre dans la ville, cet État qui est constitué d'une force étrangement barbare, hein, la Sabia est une force barbare, c'est une force tribale. Cet État, grâce à cette force barbare, constitue la civilisation. C'est-à-dire que c'est la barbarie qui constitue la civilisation, et à l'inverse, c'est parce que l'État doit conserver, pour lever l'impôt, l'immense majorité de ses sujets en état de désarmement, qu'il existe des barbares qui sont en charge de la violence dans l'État. Hein. C'est-à-dire, ce qui était extraordinairement troublant chez Ibn Khaldoun, et ce qui n'a pas cessé de le troubler tout au long de sa vie, hein, c'est que c'est la barbarie qui constitue la civilisation, et l'excès de civilisation qui fait retomber dans la barbarie, et ainsi de suite.
Hein. Alors, si j'ai bien compris, je ne dis pas avoir tout assimilé, il dit qu'on passe de la cueillette à la chasse, et puis à l'agriculture, l'élevage, et puis à un état de bédouinité. Là, voilà. Il magnifie les forces viriles, le courage, voilà, etc. Absolument. Et puis, petit à petit, les choses s'agrandissent, puis on se sédentarise. Là, les besoins commencent à grandir, puisque parfois on va vers le luxe, vers voilà, le bien-être, absolument, le confort.
Absolument.
On va vers la civilisation. Mais, c'est ce groupe humain devenu grand, il faut bien un pouvoir fort pour pouvoir tout tenir. Mmh. Et on passe de la asabiyya, donc voilà, de cette solidarité-là, à quelque chose d'un peu plus peut-être dilué, mais qui passe par la collecte de l'impôt.
Oui, absolument.
Et quand on va, quand les choses s'agrandissent, on revient. C'est une ce forme de va-et-vient, de respiration,
oui,
en quelque sorte.
Il y a une sorte de respiration du monde qui tient en effet à ce que la asabiyya se dissout dans le monde sédentaire qu'elle crée, dont elle crée les conditions.
Et qui est
remplacée
par le clientélisme.
Oui, absolument. Alors, les pouvoirs en place, lorsque les forces tribales qui leur ont donné leur existence commencent à faiblir, font appel effectivement à d'autres forces pour essayer de les substituer à celles qui étaient à l'origine à leur service. Et ils font appel, en effet, à des ce qu'on appelle des clients, c'est-à-dire à des mercenaires en particulier, militaires, bien sûr, mais aussi à toutes sortes de serviteurs qui ne sont pas originaires du même, des mêmes tribus, du même milieu tribal que la dynastie. À la limite, les Andalous, comme Ibn Khaldoun ou comme ses parents, étaient des clients, bien sûr, hein, de la dynastie berbère des Almohades, c'est-à-dire qu'ils remplissaient, à l'intérieur de l'éventail du pouvoir, ils remplissaient une niche, à l'occurrence une niche plutôt civile, hein, de l'administration financière et de la chancellerie des dynasties. Mais ils étaient des clients des Almohades.
Alors Ibn Khaldoun avait aussi un regard lucide. Certes, l'époque, le XIVe siècle, était un moment de troubles, de fragmentation, de réelles difficultés du monde musulman d'Occident.
Oui.
Et j'essaye de restituer de mémoire une citation dans les prolégomènes, dans son introduction, lorsqu'il dit, à propos de justement de la civilisation, il dit « Lorsque le vent de la civilisation eut cessé de souffler sur le Maghreb et en Andalousie, et lorsque le dépérissement des connaissances scientifiques eut suivi celui de la civilisation, les sciences disparurent. Mmh. On en trouve seulement des notions chez de rares individus qui doivent se dérober à la surveillance des docteurs de la foi orthodoxe. »
Oui, absolument.
Donc ce regard est à la fois lucide, on lui attribue aussi le fait de distinguer le champ du savoir rationnel de celui de la foi. Mmh. Donc il est à la fois d'un réel discernement, mais aussi d'une grande modernité dans cette volonté de séparer le champ du savoir et de la connaissance de celui de la révélation et de la croyance.
Oui. Alors c'est ce qui lui a été reproché en particulier, hein, parce que au Maghreb, il avait l'espoir qu'en Égypte les choses seraient différentes, elles ne l'ont guère été à vrai dire. Un peu partout dans ce monde musulman, les sciences qui sont plus ou moins directement issus de la philosophie grecque et de l'Antiquité, sont mises de côté. Il le regrette profondément, hein, très, très, très probablement. Il a, par exemple, une immense admiration qu'il n'a jamais reniée pour son maître El Abili, qui est un Andalou, enfin, comme lui, d'origine andalouse, et qui est l'un des rares maîtres du savoir intellectuel, justement, du savoir mathématique en particulier, et astronomique.
Son professeur ou son maître à Tunis, il le retrouve à Fès.
Et il le retrouve à Fès, absolument. Oui, oui, et c'est celui dont il parle le plus. Ne serait-ce que parce que, justement, cette Abili lui a communiqué son goût des mathématiques, de l'astronomie, et aussi, il faut bien le dire, de l'astrologie, hein, Ibn Khaldoun attend des événements, y compris des événements astrologiques. On a dit aussi, et je crois que c'est vérifiable, que les divisions fameuses de son histoire, puisqu'il dit que l'Arsabia se dissout en un peu plus d'un siècle, 120 ans. Hein,
les fameuses quatre générations.
Les quatre générations, voilà. Hein, en 120 ans, le ressort tribal qui tient l'État, hein, cette Arsabia qui tient l'État, hein, ces liens tribaux qui tiennent l'État, se dissolvent tout simplement parce que les gens vivent dans une société sédentaire, les gens qui ont pris le pouvoir, hein, vivent dans une société sédentaire où l'État prend en charge l'essentiel de ce qui était jusque-là les tâches de la tribu et en particulier la nécessité des solidarités de la tribu. Les solidarités ne sont plus nécessaires quand vous avez une armée, une police, des services sociaux, etc. L'État rend inutile par l'ensemble de ses pouvoirs, prérogatives, privilèges et services, rend inutile les solidarités de la tribu et donc petit à petit les solidarités de la tribu se dissolvent et disparaissent.
Alors, j'ai oublié de vous poser la question sur les quatre temps d'une dynastie, c'est-à-dire le temps de l'instauration de la royauté,
voilà.
Puis le temps de l'exercice du pouvoir autocratique,
voilà.
Aussi celui-là,
voilà, oui.
Le temps de la construction de l'État et voilà. De la consolidation, et puis il va y avoir le temps de la satisfaction, de la dilapidation,
de l'espionnage,
les plaisirs, etc.
Ouais, voilà.
Bien.
Bon, oui, c'est-à-dire voilà, c'est la génération la plus brillante du point de vue de la civilisation et des sciences étant la génération intermédiaire. La première est encore très très fruste, très bédouine, mais elle permet l'accumulation dans la mesure où l'impôt y est très faible parce que l'impôt est essentiellement destiné à payer l'armée et dans la première génération d'une dynastie d'origine bédouine, l'armée est d'origine tribale et donc elle ne coûte rien au souverain. La deuxième génération dépense ce que la première génération a permis à la société d'accumuler, et c'est la plus brillante. Et la troisième génération dilapide, en effet, c'est-à-dire qu'elle n'a plus ni les moyens, elle est obligée de s'appuyer sur des mercenaires puisque la Arsabia a disparu, elle est très affaiblie elle n'a plus les moyens de la civilisation en quelque sorte, hein, parce que l'armée mange absolument toutes les ressources de l'État.
Alors, d'aucuns disent que avant Max Weber a théorisé un peu sur le monopole de la violence légitime,
oui.
Aussi, mais c'est moi qui vous pose la question, cher Gabriel Martinez-Gros, à propos de ce qui me paraît être un paradoxe. Quand il parle des confins de l'Empire, il faut désarmer parce que c'est une prérogative de l'État.
Oui, et il faut lever l'impôt. Et l'impôt exige que les hommes soient désarmés. Il l'a éprouvé à Bougie, d'ailleurs.
Bien sûr, d'une part, il faut lever l'impôt, donc il faut désarmer. Mais si on désarme et si on attend que l'armée régulière vienne défendre l'étendue de l'Empire, ça ne marchera pas.
Donc, ça ne marchera pas.
Est confronté à cette situation.
Mais oui, et tous les pouvoirs, dit-il, sont confrontés à cette situation. C'est-à-dire que tous les pouvoirs sont constamment pris entre la nécessité de la pacification, de ce qu'il appelle, lui, la sédentarisation, hein, le désarmement. Hein. Tout empire, tout État bien constitué est un empire profondément désarmé, désarmant, pacifiant, et les nécessités d'avoir une force, même si elle est tout à fait minime, hein, les nécessités d'avoir une force qui maintient l'ordre et qui défend un troupeau producteur, certes, une population productrice, très productrice et prospère, mais désarmée. Et par conséquent, qui est vulnérable à toutes les agressions. Donc, il faut un peu de violence. L'État a besoin d'un peu de violence et pourtant, il est constamment en lutte contre la violence pour le meilleur fonctionnement possible de la société, pour la plus grande prospérité possible de la société.
On dit d'Ibn Khaldoun qu'il avait un savoir encyclopédique, ce fut
oui.
Le cas pour l'époque.
Oui.
On a parlé de psychosociologie, voire de psychologie, puisqu'il a aussi étudié le comportement des hommes,
oui,
etc.
Absolument.
De l'économiste, on a parlé du sociologue. J'utilise des termes de nos jours, peut-être qu'ils
oui.
N'étaient pas tout à fait appropriés pour son époque. Mais il avait aussi une presque, sans commettre le paracronisme, une acquaintance avec la théorie de l'évolution.
Oui.
Quand il y avait l'histoire, on lui avait reproché un de ses étudiants, dit-on sur instigation d'un de ses rivaux, de considérer que le singe est un parent de l'homme,
oui,
parce qu'il a une théorie sur les différents règnes, le règne minéral, végétal et animal,
voilà,
en disant que le sommet du règne minéral, c'est une couche qui est au bas de l'échelle du règne végétal,
voilà,
et c'est ainsi que les choses, voilà, évoluent et progressent, et on arrive à l'homme.
Il y a des thèses d'Ibn Khaldoun, effectivement, qui montrent en particulier, ce sont des thèses qui ne sont pas nécessairement toujours absolument nouvelles dans le monde musulman, d'autres ont pu les évoquer avant lui, mais à son époque, elles sont très très profondément contestées. Des hommes comme Biruni, comme Avicenne ont pu parler de ces choses-là dans des termes qui ne sont pas exactement comparables. Ibn Khaldoun, de ce point de vue, a un attachement à ce qu'ont été les sciences à l'apogée de l'islam, de l'empire islamique abbasside, qui est très rare, malheureusement, au XIVe siècle, où tout ce qui est philosophie est décidément tenu en suspicion. Le mot philosophie, d'ailleurs, a disparu jusque chez lui. D'ailleurs, il utilise le mot hikmah,
c'est-à-dire la sagesse. Hein. La sagesse des anciens, et pour lui, la sagesse des anciens, ce sont les Grecs.
Absolument.
Alors, nous avons commencé par parler de son actualité, de ceux qui le considèrent et qui l'ont considéré vraiment comme un génie. Nous finissons par ça. Alors, on dit que des gens comme Maxime Gorki, comme Vladimir Lénine, comme même d'autres, des Alfred von Kremer, etc., le considèrent comme un philosophe de l'économie et des questions sociales. Qu'en est-il véritablement?
Oui, en tout cas, il y a quelques années, tout de même, c'était en effet il y a quelques années, parce que Ronald Reagan était président, hein, il a cité Ibn Khaldoun. Je crois que c'était, il ne l'a pas cité explicitement, parce qu'il a sans doute eu du mal à prononcer son nom, mais il a cité une de ses thèses. Il a parlé d'un philosophe arabe qui parlait en effet, du fait que l'impôt tue l'impôt. Hein,
De mémoire, en reprenant cette idée que c'est lui qui était derrière the social thought from law to science.
Ouais.
La pensée sociale qui va de la tradition, traditions à la science.
Absolument. Et il insiste, par exemple, Ibn Khaldoun, sur le fait que de la valeur du travail. La valeur est déterminée par la quantité de travail. Hein, la valeur d'un objet est déterminée par la quantité de travail. Il explique que il dit, ah oui, mais les Égyptiens, par exemple, pensent que quand ils fouillent sous la terre et qu'ils trouvent un trésor, il y a là fondamentalement de la chance et que ça n'a rien à voir avec le travail. C'est une erreur, évidemment. Vous saisissez le travail des ancêtres. Hein, et vous le réemployez et réinjectez la richesse produite par un travail désormais fossile, évidemment, dans une économie vivante. De la même façon, d'ailleurs, quand vous détruisez les colonnes d'un temple en marbre pour le faire cuire et en faire de la chaux. Vous allez me dire, c'est scandaleux. De nos jours, on penserait effectivement que c'est scandaleux. Non, dit Ibn Khaldoun, c'est simplement que vous transformez quelque chose qui n'a plus de sens, c'est-à-dire en l'occurrence les colonnes d'un temple d'un dieu disparu, dans quelque chose qui a de nouveau du sens, c'est-à-dire de la chaux dont vous vous servez pour passer sur vos demeures et les garantir contre les attaques des insectes, par exemple. Donc voilà, il y a une profonde effectivement réflexion sociale et économique chez Ibn Khaldoun.
Bien, merci infiniment, merci.
Merci à vous.
Cher Gabriel Martinez-Gros. Voilà. C'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé du génie Ibn Khaldoun. et de son génie à lui. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter, à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Claude Niort et la réalisation par Olivier Guérin.